Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve comme chaque jour en direct jusqu'à 16h pour parler de vous, de vos expériences de vie et je suis accompagné de ma camarade Justine toute la semaine. Bonjour Justine.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, nous sommes jeudi, il fait encore un petit peu beau, donc parfait.
Parfait, pendant cette heure, on parle de votre vécu, des joies et des peines de la vie, de ce qui vous a marqué et de ce qui vous anime. On dit que pardonner, ce n'est pas changer le passé, mais assurément l'avenir. On dit aussi que pardonner libère, que ça permet d'avancer. Mais comment pardonner l'impardonnable ? Comment pardonner le pire ? Pour certains, pardonner, c'est cautionner, excuser. Pour d'autres, le pardon est inconditionnel, une sorte de guérison, un apaisement. Mais la rancœur et la haine sont-elles des étapes nécessaires ? Peut-on s'en défaire ensuite ? Le pardon est parfois immédiat, mais il est plus souvent le résultat d'un long chemin. Alors pardonner pour se libérer, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Exactement, jusqu'à 16h au 39-21, 50 centimes la minute, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Aurélie. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Aurélie.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour Aurélie.
Tout l'honneur est pour moi.
Et l'honneur est pour moi aussi. Et je dois préciser que nous connaissons hein, tous les deux, puisque nous avons eu le bonheur de partager quelques jours ensemble il y a quelques temps déjà autour de votre histoire. Et je sais que cet après-midi, vous êtes en vacances à New York et que vous avez fait l'effort de nous consacrer de votre temps pour témoigner de votre histoire et justement de ce pardon qui vous habite.
Absolument.
Aurélie.
Donc, on ne va pas revenir sur... Oui, pardon.
Alors, je vais résumer pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire. Vous avez vécu l'impensable. Hein, le 28 septembre 2012, votre fils Kevin est décédé après avoir été littéralement lynché, massacré, on peut le dire, par une dizaine de jeunes. Son amie Sofiane a subi le même sort, une rixe qui n'est partie de rien, hein, de rien du tout. C'était de la violence gratuite. Quels sentiments vous ont envahi au départ ?
Au départ, en fait, c'est d'abord la douleur, l'espèce d'émiettement du corps. Il n'y a pas de place à la haine, il n'y a pas de place. C'est d'abord, c'est un émiettement et une incompréhension. Parce que quelle violence venue de jeunes personnes m'avait tellement déstabilisée. Pour moi, c'était hors de mes référentiels. Enfin, ouais. Je ne comprenais pas. Donc c'est d'abord ça, la grosse douleur. Après la douleur, je me ressaisis et j'ai dit, comme toujours, il y avait pourquoi ? Comment ça arrive ? Comment un pays civilisé ? Comment un quartier où on s'occupe de la jeunesse ? Comment ça se passe et pourquoi ? Et donc la colère, bien sûr, la colère, mais la colère contre, pas forcément dirigée, enfin un peu les institutions, un peu les adultes qui ne font pas leur travail, les parents qui démissionnent, un peu toute cette colère mélangée. Mmh. Et... En fait, jamais la haine, peut-être parce que c'est ma nature d'abord, je ne sais pas. Mais la haine n'est pas venue. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des victimes de part et d'autre. C'est-à-dire que nous, les parents, les amis de nos enfants, les amis nombreux, parce que vraiment nombreux, et que je vois encore aujourd'hui dans une blessure, une plaie qui n'a pas guéri. Mais nous, nous étions souffrants. Mais j'imagine que les parents de ces auteurs de ce massacre était dans une situation aussi de désarroi, quoi. Mmh. Et j'ai l'impression que des deux côtés, il y avait des victimes. Et pour moi, de toute façon, tout était tellement pris par la douleur qu'il n'y avait même pas de place à la haine.
Justement, lorsque vous parlez de cette haine, vous dites qu'il n'y avait pas de place pour cette haine, mais plutôt pour de la place pour de la pitié, voilà, j'ai eu du mal à le dire, mais parce qu'en fait, je m'imaginais à votre place, d'ailleurs on l'a évoqué ensemble, perdre son enfant dans ces conditions-là, comment la pitié fait-elle place très vite à la haine ? Enfin, l'inverse, comment... c'est ça, comment la pitié arrive aussi vite ? Expliquez-moi ça.
Ah oui, c'est ça. Comment on peut avoir de l'empathie et en tout cas
une forme de la pitié,
pour le camp, voilà, pour le camp adverse.
Exactement.
En fait, je pense que c'est parce que c'est des jeunes, parce que c'est des enfants. Et j'ai imaginé que en fait, ils sont responsables, pas totalement. Voilà. Et qu'une partie de leur acte, on ne peut pas les de culpabiliser, mais l'autre partie appartient à l'enfant de la communauté. Voilà. Et là, je me suis dit, ces enfants ont encore un avenir. Ce ne sont pas des adultes, ils ont une espérance de vie encore longue devant eux. Si on ne leur accorde pas les bénéfices de la restauration, enfin de se restructurer, leur vie sera foutue là pour de vrai. Et ils méritent au minimum ça.
Vous êtes tout de même d'accord que même si j'entends complètement votre raisonnement, même si ces jeunes agresseurs qui ont commis l'irréparable, puisqu'il y a eu deux morts, deux jeunes comme eux à qui on a pris la vie, ces jeunes ont toute leur vie devant eux, mais ils méritaient tout de même d'être sanctionnés, ces jeunes.
Mais attention, le pardon, au contraire, ne s'occupe pas la sanction, il intègre.
D'accord.
Il intègre. Toujours. Ah oui, toujours. Il y a pas. Ah oui, il ne faut pas qu'on se méprenne là-dessus. Il n'y a pas de pardon sans sanction, parce que l'acte qui a été commis et qui doit être réparé. Bon, réparé au niveau individuel, donc les premiers qui victimes que nous sommes, mais aussi au niveau de la communauté, qui a eu des dégâts, des détériorations, voilà. Mais du coup, il y a que la justice rentre en jeu et que cette justice, quand elle fait son travail, elle participe aussi à la réparation des victimes que nous sommes, quoi. Mm-hmm. Donc, oui, sanction, exactement comme dans une famille, hein. Mm-hmm. On aime son enfant, il fait une bêtise, il mérite une sanction, mais ça n'a rien à voir avec un mot, et au contraire. Ça va l'aider à avancer, à être responsabilisé.
Voilà, mais pas une sanction qui résonnerait comme quelque chose de définitif. Et là, je pense à des peines de prison très lourdes.
Exactement. Mais la sanction, selon les lois de la nation, sur les lois de la nation, tel que le système judiciaire le prévoit, quoi. Ça, c'est sûr. Sinon, il n'y a pas de responsabilisation et on n'avance pas.
Bien Aurélie. Aurélie, allez-y, dites-moi, finissez.
Je disais que cette sanction, elle répare des deux côtés. Nous en avons besoin, nous,
oui.
Bien sûr. Parce que, c'est une sorte de justice, quoi. Enfin, vous avez la justice, la paix, l'amour, c'est des mots qu'on utilise, mais sans ceux qui régissent, c'est la même chose. Et donc, voilà, il n'y a pas de paix en justice. Donc, cette réparation, cette sanction, elle est nécessaire parce qu'elle nous apaise et c'est loyal, c'est normal.
Cette sanction, elle est nécessaire pour apaiser dans un premier temps le cœur voir ensuite. À réfléchir comment cet avenir est envisageable pour ces jeunes agresseurs. Aurélie, on va essayer de vous rappeler d'un autre téléphone parce que comme vous êtes loin, la qualité de la ligne n'est pas très bonne, mais on vous retrouve tout de suite.
Europe 1. Vous avez réussi à pardonner, tout comme Aurélie. Par quelle étape êtes-vous passé ? Vous sentez-vous libéré depuis ? On vous écoute au 39-21 jusqu'à 16h avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Jusqu'à 16h, Olivier Delacroix vous attend pour partager vos expériences de vie avec cette question aujourd'hui. Le pardon est-il vraiment libérateur ? On vous écoute au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Aurélie qui nous expliquait avoir pardonné très vite et avoir chassé la haine pour laisser le pardon s'installer dans son cœur afin que ces jeunes agresseurs, responsables de la mort de son fils et de son copain Sofiane, qu'il y a un sens dans tout ça. C'était en 2012. Aurélie, vous avez tenu à écrire, à mettre des mots sur ce qui vous est arrivé. Est-ce en écrivant que la question du pardon s'est posée ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout de suite. Elle s'est posée parce que parmi nous était quand même complètement noyé dans la colère et la haine.
Oui.
Dans les jours qui ont suivi, quand je dis parmi nous, beaucoup de jeunes, bien sûr. Et
surtout les jeunes d'ailleurs, hein. Surtout les jeunes.
Hein. Si c'était possible pour eux, ils auraient mis le feu, dans le quartier des agresseurs, voilà. Bon, donc il fallait opposer à ça d'autres sentiments, à mon avis, qui étaient plutôt, justement, sans parler de pardon, parce que pour eux, c'était un mot qui résonnait mal et qui faisait mal, qui donnait comme un coup de lance pour eux. Pardon, mais ils ne pouvaient pas l'intégrer.
Comme une trahison.
Ouais. Ça, c'est exactement ça. Comme une trahison. Donc, je l'ai utilisé avec beaucoup de parcimonie, ce mot. Ça n'a pas été immédiat. Voilà. Mais dans le livre, j'en parle parce que je fais beaucoup de références à ce qui me nourrit. Dans mes expériences de vie, un pardon, c'est toujours une démarche. Hein. Donc c'est une démarche active. C'est pas, on décide de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a un processus, d'accord ?
Oui.
Voilà. Mais comme je dis toujours, ça veut dire aussi qu'on va donner, on offre à la personne la possibilité de se restaurer,
oui.
De changer, en lui disant que l'acte qu'il a commis, aussi effroyable soit-il, peut être distinguer de la personne qu'il est, d'accord ? Parce qu'il y a des circonstances. Et que voilà, on va mettre l'acte d'un côté, mais lui, on peut peut-être... Voilà, on le considère comme un être ayant des droits. Voilà. Et du coup, eh ben, ça lui permet peut-être effectivement de réfléchir et de regretter l'acte, quoi, et de le traverser.
Mais
effectivement, j'en ai pas parlé tout de suite mais j'ai utilisé plutôt des mots en disant, écoutez, ne laissez pas la haine ou la rancœur ou la rancune ou la colère envahir votre cœur. Parce que ça, c'est des vrais poisons. Mmh. Ça va vous ronger.
Justement, voilà. J'allais vous demander la colère...
J'aurais dit plutôt ça. Et puis, on a bien sûr, et puis d'autres... Voilà, la colère. La colère, elle est nécessaire parce qu'elle permet d'être debout.
Hein. Ouais.
Elle est nécessaire.
Mais elle empoisonne aussi.
La marche. Si elle dure longtemps. Et si elle tourne en rond. C'est-à-dire, si elle ne s'accompagne pas d'un acte debout. Je suis en colère, donc je vais aller voir les autorités pour qu'ils mettent la lumière dans le parc, par exemple, pour
ouais.
que y a plus de, les gens puissent circuler sans avoir peur la nuit, puisque c'est, voilà, des choses comme ça. On va aller voir dans les écoles pour parler aux enfants de la violence, en disant que la violence n'est pas une réponse adaptée quand on a été humilié ou harcelé, enfin, qu'il y a d'autres possibilités.
En tout cas, voilà. ce qui est arrivé à votre fils et à son meilleur ami ce jour-là, il a généré d'abord il a généré votre témoignage de maman qui a parler du pardon très vite, qui a été relayé, comme vous le faites aujourd'hui, avec des mots simples, des idées claires, qui visent à l'espoir, tout simplement, à partager des idées saines plutôt que de rentrer dans la colère, dans la haine. Et le chanteur Calogero a rendu hommage à votre fils et à son ami dans une chanson, parce que Calogero était, en tout cas, il était du même quartier et il s'est senti vraiment investi et il a écrit cette chanson-là. Pour un regard en croix, je suis mort. Cette chanson, comment est-ce que vous l'avez reçue lorsque vous l'avez entendue pour la première fois ?
Très bien. Honnêtement, mon premier sursaut, ça a été comment dire, c'est très sensitif, hein,
oui.
Ce genre. Je l'ai beaucoup aimé, oui.
Ouais.
Et après, j'ai encore plus aimé quand il a intégré les enfants du quartier dans le clip, quoi. Non, la chanson, elle me plaît. Franchement, elle dit ce que c'est, quoi. Elle est belle.
Elle est très belle.
Et elle a pas la... Bon, on dit plus jamais ça. On le répétera. On l'a répété après la première guerre, après la deuxième, après... OK, mais il faut le dire. Si on ne le dit pas, ça peut être pire. C'est ce que certains ont reproché, que c'est toujours... on dit la même chose, plus jamais ça, et ça revient. Bien sûr qu'après, depuis 2012, il y a eu d'autres drames comme ça.
Oui, ça a recommencé.
Il n'y avait pas une parole. Oui.
Pour autant, pardonner n'empêche pas la douleur. Est-ce que c'est un apaisement alors ? Est-ce que c'est se délester d'un poids ?
Ah, mais c'est carrément se délester d'un poids. Honnêtement. Oui, quand vous disiez dans votre début d'émission que le pardon libère, Il libère parce que d'abord c'est un don, enfin un don,
oui, un
pardon,
don.
Hein,
ouais.
Un don par-dessus les offenses reçues, par-dessus les blessures, mmh. Au-delà de l'inacceptable. Et ça, mais quand on donne, on est content, quoi. On donne quelque chose à l'autre.
Est-ce que les meurtriers de votre fils savent, ils connaissent votre pardon, ils en ont entendu parler
Écoutez, les parents,
ouais.
Les parents, mais sans beaucoup se manifester. Et vous m'amenez à la deuxième, à une autre forme de réflexion.
Oui.
Pardon, ça se fait toujours à deux. Hein. Il y a
oui.
Celui qui est prêt à le donner dans une démarche active.
Et celui qui le reçoit.
Et celui qui le reçoit, mais à condition qu'il ait aussi, oui, qui fasse sa démarche. Hein.
Oui.
Oui, bien
et comment,
sûr. Pas
comment cela s'est-il passé justement lors du procès qui a opposé donc voilà où ces jeunes ont été jugés. Est-ce que vous avez senti que ce pardon que voilà, comme une offrande,
non.
Parce que j'ai envie de parler de ça, moi, du cadeau que vous faisiez ce jour-là. Parce
honnêtement,
que...
des fois, les choses ne vont peut-être pas...
dans le bon sens.
Parler tout de suite, voilà, mais ils ont senti, quand on a parlé en tant que partie civile, qu'on était absolument...
Pas
en
entendu.
Tout cas, on n'a pas fait ressortir de haine, oui, mais
oui.
Eux, ils étaient encore dans un... Pour eux, d'abord, leur premier objectif, c'était éviter le maximum de peine.
Oui.
Donc, ils avaient construit une défense du déni
oui.
Complet et aucun supplément d'âme. Rien.
Bon. Donc, il restait encore
rien.
Beaucoup de chemin à faire. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, Aurélie? Comment ça va?
Et pardon, vous dites quoi?
Comment allez-vous aujourd'hui?
Comment... Moi, je vais bien, merci.
Ouais.
Je vais bien.
Bon.
Merci, oui. Et je me dis que les choses, les graines qu'on sème, elles se produisent pas forcément dans le temps humain. Enfin, en tout cas, voilà. Mais ils sont encore en prison et voilà, on attend. Mais je pense que dans tous les cas, c'est une démarche qui évite une surenchère.
Mmh. Mais on parlait de la sanction tout à l'heure et elle est incontournable. Je rappelle que en 2012, deux jeunes gens sont morts et que, bien évidemment, si vous avez offert votre pardon et que ce pardon n'a pas été visiblement perçu et compris, entendu, et que vous avez été opposé, il s'est opposé à une démarche voilà, de déni, eh bien, il reste du chemin à faire. Donc, reste dans ce témoignage aujourd'hui votre pardon, Aurélie, et je vous remercie pour ce précieux témoignage que vous donniez cet après-midi de New York où vous êtes en vacances et où je vous souhaite de profiter, Aurélie. Je vous embrasse bien fort. Pour mieux comprendre le processus du pardon, nous allons accueillir Gabrielle Rubin. Elle est psychanalyste et auteure de l'ouvrage du bon usage de la haine et du pardon.
Mogouaï nous dit sur la page Facebook de l'émission « Pour moi, pardonner est essentiel et en même temps, c'est un chemin. J'ai vécu un événement traumatisant enfant et j'ai réussi à 30 ans à dire que je pardonnais. Mais c'est parce que j'ai été entourée et aimée pour me relever, alors je me suis dit qu'il méritait un pardon car personne n'avait eu d'acte de bienveillance envers lui.
Europe 1.
Pardonner a-t-il été un choix facile? Vous sentez-vous libéré depuis? On veut connaître votre avis face à cette épreuve au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h et au 39-21, on attend vos témoignages sur le pardon. Comment avez-vous réussi à pardonner? Cela vous a-t-il vraiment libéré? Venez partager votre expérience.
Et dans les deux premières parties de cette émission, nous avions le témoignage d'Aurélie et nous échangeons tout cela pendant la pub. Et on se disait quand même que pardonner lorsqu'on a perdu son enfant dans de telles circonstances, c'est quand même voilà, un cadeau aujourd'hui que cette femme nous faisait et... Et voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont parents, voilà, cette notion du pardon dans ce cadre-là, elle est tellement immense que voilà, j'ose parler de cadeau. Nous sommes maintenant en ligne avec Gabrielle Rubin, psychanalyste. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, vous avez publié l'ouvrage « Du bon usage de la haine et du pardon » aux éditions Albin Michel en 2007. Dedans, vous dites que la haine qu'une victime devrait éprouver face à un événement ou face à une personne, cela retourne souvent contre elle. Qu'entendez-vous par là?
Voilà, d'abord, je vous présente mes excuses pour cette voix qui n'est pas normalement la mienne, mais j'ai été, comme beaucoup d'autres Français, rattrapée
par la grippe.
La pollution.
Ah, par la pollution.
Donc,
bon,
alors...
mais ça va, tout va bien.
Bon, parfait. Alors, ce que d'abord, je ne juge pas cette dame dans un malheur aussi immense.
Oui.
Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais quand même, pendant qu'elle le parlait, je voudrais mettre tout de suite au point une chose. Elle a dit qu'au premier moment, surtout les jeunes autour d'elle voulaient aller
se venger.
Se venger et mettre le feu à l'endroit où étaient les bourreaux. Alors, je ne pense pas du tout qu'en devenant des bourreaux soi-même, on arrange quoi que ce soit.
Alors, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle avait justement, elle s'était opposée tout de suite à cette attitude, et que la réaction, cette réaction dont vous parlez, c'était celle des jeunes qui étaient bien évidemment amis avec les victimes, et qu'elle s'est tout de suite opposée à cela, et elle a essayé tout de suite, elle a tout de suite été dans une posture de faire réfléchir ces jeunes et de dire que ça n'était pas comme ça que les choses allaient s'arranger.
Le problème, au début, lorsqu'elle parlait, la première question que je voulais lui poser, c'est est-ce que ils ont compris, est-ce qu'ils ont demandé pardon, en mettant dans le mot « je demande pardon » tout ce qu'on peut y mettre. Un vrai repentir, la ferme intention de ne pas recommencer, de ne plus jamais recommencer, et de payer leur dette à la société.
Elle a répondu à cette question, hein. Elle attendait beaucoup du procès. Elle attendait beaucoup du procès. Elle attendait des agresseurs, justement, la compréhension et puis justement de savoir recevoir ce pardon. Elle attendait des parents de ces agresseurs aussi, quelque chose, aussi une compréhension de cette notion du pardon. Et elle a souligné qu'elle n'avait reçu que déni et donc une défense représentée par les avocats de ces agresseurs, une défense qui était construite sur le déni. Donc ce pardon, non seulement il a été compliqué, je suppose, quand on perd son enfant, tué pour rien, lynché dans un parc à 50 mètres de chez lui. Comment on arrive à pardonner? Ça, c'est quelque chose, je vais vous dire, j'ai passé 3 jours avec cette femme, ça m'échappe toujours qu'elle soit capable de pardonner. Et pourtant, elle l'a fait.
Un peu ce que je lui ai dit, chacun s'en tire comme il peut, avec les moyens qu'il possède. Mais moi, ce que je dis, je pars d'un point de vue qui n'est pas du tout le même. Je crois que le pardon est toujours possible lorsque l'agresseur, le bourreau, demande sincèrement pardon et fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne recommence plus jamais et purge sa peine et fait des actions qui montrent qu'il essaye d'influencer d'autres jeunes, puis d'autres moins jeunes, enfin toute la société, pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Ça n'a pas du tout la même valeur. Mmh.
Alors, voilà. vous parlez beaucoup des agresseurs, là, mais pour recentrer vers ceux qui doivent pardonner, comment se débarrasser de la rancœur, de la colère, et justement arriver à ce pardon?
C'est ce que je dis. Il ne faut absolument pas... C'est un sentiment naturel et c'est, si vous dire que la haine, c'est la seule possibilité, le seul sentiment assez brûlant pour pouvoir vous aider dans une situation insupportable. Mmh.
Gabriel Rubin, je rappelle que vous êtes psychanalyste et auteur de l'ouvrage « Du bon usage de la haine et du pardon ». Donc, vous restez en ligne avec nous, hein, vous continuerez à nous donner vos éclairages. Dans quelques instants, nous accueillerons Nathalie. Après un long travail sur elle-même, elle a réussi à pardonner l'homme qui a tué son frère dans un accident de voiture.
Europe 1. Comment réellement pardonner et se libérer de son passé? C'est la question qu'on vous pose cet après-midi au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et jusqu'à 16h aujourd'hui, on parle du pardon avec Olivier Delacroix. Comment avez-vous réussi ce travail sur vous-même? Par quelles étapes êtes-vous passé? Cela vous a-t-il vraiment libéré? On attend vos témoignages au 3921.
Et nous sommes en ligne avec Nathalie. Bonjour Nathalie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Nathalie?
Alors j'ai 47 ans et je vous appelle de l'Armor-Plage en Bretagne, Bretagne Sud.
D'accord, Bretagne Sud. Alors en 1990, votre frère est décédé dans un accident de la route. Le conducteur, l'un de ses amis, avait bu et n'avait pas le permis. Vous aviez seulement 18 ans à cette époque. Vous avez alors, j'imagine, ressenti les pires sentiments, bien sûr ceux de la perte liée à la perte de votre frère, mais surtout par rapport à cet ami qui était responsable de la mort de votre frère.
Oui, tout à fait.
Quel sentiment vous avez nourri dès le début vis-à-vis de lui ?
Dès le début, le déni, on n'y croit pas.
Oui.
On hurle à l'annonce, on va dire. Un hurlement, on va dire, bestial, animal, sauvage. Et après, on se calfeutre, je pense, dans un déni, mais qui va durer quelques temps. Et on attend toujours un appel, on attend toujours plein de choses, et rien n'arrive. Donc, oui, un déni d'abord. Et la colère arrive très, très vite.
Vous attendiez un appel de la part de ce garçon qui n'est jamais venu ?
De mon frère, disons qu'on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas au départ d'un proche, 17 ans, enfin voilà, c'est jeune, on s'entendait bien, donc voilà. On attend un appel, on attend une visite et rien. Et après, donc comme je vous dis, la colère arrive très très vite.
Alors justement, par rapport à cette colère, comment vous êtes positionné vis-à-vis de ce garçon qui, à mon avis... de toute façon, on devait énormément culpabiliser parce que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on boit, lorsqu'on sort avec un copain, on n'imagine absolument, bien évidemment, pas que ça peut finir en drame comme celui-ci. Pourtant, c'est ce qui est arrivé ce soir-là. Ce garçon, vous l'avez recroisé ?
Je l'ai recroisé à plusieurs reprises, oui, et avec une indifférence totale, en fait. Comme si ça n'était pas arrivé. On s'est croisé deux, trois fois dans un bar, par exemple. Ouais. C'était la petite tape dans le dos. Salut Nathalie, comment ça va ? Comme si de rien n'était. Je n'ai jamais eu de remords de sa part ou quoi que ce soit, de pardon, de demande de pardon non plus. Donc c'était très, très difficile. Donc la colère était.
Présente.
On va dire que la colère a été, tout à fait nourrie de jour en jour.
Vous n'avez jamais ressenti la moindre culpabilité de la part de ce garçon ?
Jamais.
Jamais.
Jamais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais.
D'accord. Il y a eu un procès. Il a été seulement condamné à 5 ans d'interdiction de passer son permis. Comment vous avez reçu, vécu ce verdict et comment votre famille l'a vécu ?
Alors, une injustice, quelque part, puisqu'on a su que 2 ans après, il conduisait. Donc, c'était un peu difficile à avaler. Hein. Une injustice, rien de plus. Comme le départ de mon frère, une injustice aussi, quelque part.
Mmh. En même temps, j'étais en train de me dire, aucune peine ne pouvait correspondre, en tout cas ne pouvait vous apaiser dans une telle histoire.
Non, aucune. Aucune. Mmh. Mais bon, j'avais que 18 ans. On est jeune à 18 ans.
Bien sûr.
On rentre dans la vie de grand. Mais bon, c'est une sacrée claque, on va dire. Mmh. Et non, rien n'aurait pu le ramener, on va dire.
Et comment vos parents ont-ils réagi à tout cela ?
Alors, mes parents, ça a été très difficile parce que ça a été... pour ma maman, on lui arrache un enfant.
Oui.
Voilà, c'est pas la logique des choses. Dans la logique, on part après, avant ses enfants. Mmh. Donc là, c'était très difficile. Mon père était très très proche de mon frère, donc ça a été. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, on va dire. Hein.
Les parents,
mon père et
les
moi,
parents se connaissaient. Les parents de la victime.
Se connaissaient, oui, indirectement. Mes parents étaient commerçants, donc la maman était cliente.
Oui.
Et venu à plusieurs reprises harceler, entre guillemets, mes parents dans leur magasin. Parce qu'en fait, elle s'est faite passer pour la conductrice. Elle est arrivée sur les lieux avant la police.
Bon, alors ça fait partie de l'histoire. Et j'ai envie de vous dire que, voilà, comme Aurélie en témoignait dans la première partie de cette émission, soit en face, on se met dans une posture de déni et puis on construit une histoire. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé aussi pour vous, en tout cas pour les parents de celui qui conduisait et qui est responsable de cet accident ce soir-là. Mais aujourd'hui, vous avez pardonné 10 ans. 10 ans après, vous dites que ça a été long. Par quelle étape êtes-vous passé pour... pardonner aujourd'hui ?
Disons que je pense que j'ai choisi de pardonner à ce moment-là, au bout de 10 ans, hein, parce que c'était pas tant pour le besoin de l'autre du pardon, de le lui donner, c'était que moi j'avais besoin d'être
vous.
En paix, ouais. Dans mon cœur, déjà. Donc apaiser ces choses-là et...
La rancœur, la tristesse, la haine, Ça empoisonne, ouais. c'est ce que en fait Aurélie en parlait tout à l'heure.
Ça vous bouffe. Ouais. Ça vous bouffe à l'intérieur en fait. Mm-hmm. Ouais.
Et est-ce que vous avez senti le moment, parce que souvent lorsqu'on parle avec des personnes qui pardonnent, elles évoquent cette légèreté d'un seul coup, ce poids dont elles se libèrent. Est-ce que vous
lorsque
avez senti ça?
Lorsque le pardon a été donné, quoi.
Ouais, lorsque...
Je l'ai senti. Ouais. Oui. Ouais. Oui, oui, je l'ai senti parce qu'en fait, il s'avère que tous les ans, à la date anniversaire et à l'heure anniversaire du décès de mon frère, j'appelais la maman.
Ouais.
Pour lui souhaiter bon anniversaire à elle, en fait. Mmh. Voilà.
Ce que vous ne faites plus maintenant.
Voilà, ce que je n'ai plus fait la 10e année, en fait.
Ouais.
Et le deuil, le pardon, c'est une acceptation, en fait, de la situation, que tout passe, on va dire que c'est fluide. Il y a la tristesse, je n'ai plus de tristesse.
Ouais.
Les souvenirs sont là. Mais la tristesse, c'est fluide quand j'en parle. J'ai plus le nœud, vous savez, au niveau de la gorge, voilà. Mmh. Ça, on le sait rapidement. Quand le pardon est donné, on le sait, on le sent.
Vous avez l'impression d'arriver à mieux avancer aujourd'hui dans votre vie depuis ?
Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Toutes les épreuves vous rendent plus fort. Donc, voilà.
Il n'y a aucun, c'est sûr que ces épreuves vous rendent bien évidemment plus fort et plus forte pour vous et que le pardon, j'ai envie de dire que c'est une étape après, mais que c'est encore plus magnifique. Merci beaucoup Nathalie pour votre appel et pour votre précieux témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Michel qui a été victime de son cousin qui l'a violée quand elle avait 6 ans. Et malgré les années qui passent, elle n'arrive pas à pardonner. Pour elle, le pardonner serait l'excuser et ça, il n'en est pas question.
Michael nous dit au 39-21, Michael qui vient de Paris, j'estime qu'il est impossible de pardonner. Il faut avoir une force hors du commun pour pardonner, j'en serais incapable. Le terrorisme, par exemple, je ne peux pas.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et aujourd'hui on s'intéresse au pardon. Est-ce vraiment libérateur ? Comment vous êtes-vous décidé à pardonner ? On partage vos expériences de vie au 39-21. Pardonner, c'est un bien gros mot qu'on ne comprend pas toujours. Par où commencer ? Comment mettre ces idées négatives de côté ? Si vous avez réussi à pardonner, on vous attend au 39-21 pour en parler avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Michel. Bonjour Michel, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Michel ?
Alors j'ai 60 ans et je vous appelle de Seine-et-Marne.
D'accord. Alors, je vais résumer votre histoire, Michel. À l'âge de 6 ans, vous avez été abusé par votre cousin, qui lui était âgé à l'époque de 17 ans. Je crois savoir que c'est en visionnant le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon que vous avez décidé enfin de parler de l'agression dont vous aviez été victime. Ça a été libérateur pour vous, déjà, dans un premier temps, d'en parler ?
Tout à fait, oui, oui, parce que en fait... Dans cette situation, si vous voulez, quand vous avez 6 ans, on réagit avec son cerveau de petite fille, on ne comprend absolument pas ce qui se passe, puisque tout cela a duré des années et des années, et j'ai vraiment pas pu en parler tout de suite en fait.
Lorsque vous dites que ça a duré des années et des années, ça veut dire qu'il vous a agressé pendant des années ?
Tout à fait, jusqu'à l'âge de 12 ans, 12-13 ans.
Ah oui, d'accord. Vous êtes suivi en psychanalyse, hein, je crois, depuis une dizaine d'années.
Tout à fait.
Cela vous aide à mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur l'attitude de ce garçon, votre cousin ?
Alors, l'attitude du garçon, de toute façon, c'est très difficile de pouvoir en parler, puisque il avait sûrement ses bonnes raisons, on va dire,
ouais.
qui ne sont bonnes que pour elle, que pour lui. Mais effectivement, la psychanalyse a fait que la parole s'est libérée. Et donc, j'ai pu mettre quelques mots sur ces 16 agressions qui ont duré autant d'années.
Oui, est-ce que vous ressentiez sans doute... Vous avez essayé, parce que j'imagine tous ceux qui vous écoutent et qui se posent cette question, si vous avez essayé... de joindre votre cousin dans les dernières années, les derniers mois, pour en parler avec lui, savoir ce qui s'était passé, parce que c'est important dans votre reconstruction que ce cousin, un jour, il vous parle, qu'il vous explique pourquoi il a fait ça.
Alors, exactement. De toute façon, en lien avec mon psychanalyste, parce que Je lui en avais parlé, que j'avais une forte envie de le contacter, donc ouais. Je l'ai contacté. Et de son côté, il s'appelle Michel aussi, donc il y a toujours des problèmes d'identité et de nom.
Oui.
Et mon mari s'appelait aussi Michel, donc je suis toujours un peu baignée, si vous voulez, dans les prénoms. Et quand je l'ai appelé, il était très heureux de m'avoir au téléphone.
Oui.
Et je lui ai dit, écoute, ça sera très rapide, voilà, tout ce que tu m'as fait subir. Et là, j'étais dans une espèce de sentiment de vengeance, en fait, en lui disant, j'espère que toutes tes nuits sont hantées par ce que tu m'as fait.
Ouais.
Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, vraiment, je suis désolée. Mais je lui ai dit, écoute, être désolée, pour moi, ça ne suffit pas.
Mm-hmm.
Voilà, parce que je pense que quand on a 17 ans, on sait, grosso modo, de s'attaquer à une petite fille de 6 ans, on sait ce qu'on fait.
Bien évidemment. En tout cas, à 17 ans, on a plus conscience qu'à 6 ans, c'est clair. Mais est-ce qu'il a fini par vous demander pardon, cet
non.
homme ? Non ?
Non, parce que je sais, parce que il est divorcé, j'ai eu ma cousine au téléphone,
ouais.
Et je sais qu'il a continué pendant des années et qu'il continue encore.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que, alors j'allais vous demander si, parce que voilà, je n'étais pas au courant de ce détail, j'allais vous demander si vous seriez capable de lui pardonner à lui aujourd'hui, mais en sachant ça, je suppose que ça peut être compliqué. Qu'est-ce que le pardon pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le pardon, aujourd'hui ?
Alors écoutez, le pardon, j'ai lu une très belle citation qui ne me correspond absolument pas. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. C'est tenir une offense, une faute pour nulle, et renoncer à en tirer vengeance et à poursuivre et à punir les responsables.
Elle est un peu simplette, cette définition.
Elle est un peu simplette,
ouais.
Mais pour nul, déjà le mot nul, mm-hmm. pour moi, il n'y a aucune nullité. Puisque
vous l'avez
trouvée
où, cette citation ?
Alors écoutez, je l'ai trouvée sur Internet,
ouais.
en regardant un petit peu de plus près.
Mm-hmm.
Et bon, déjà, quelque chose de nul, pour moi, rien ne sera nul, puisque
non.
ma vie encore d'adulte est empreinte de tout ce qui s'est passé.
Ouais.
Et de renoncer à la vengeance, bon, en aucun cas, de toute façon, je n'aurais cherché à me venger. Et puis à punir les responsables, il y a eu tellement d'années qui se sont passées que de toute façon, tout ça, il y a eu prescription. Donc, vous voyez que le pardon, pour moi, c'est impardonnable. C'est impardonnable.
Merci infiniment, Michel, pour votre appel et pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous allons accueillir Anya. Elle a été victime d'un viol à l'âge de 15 ans. Elle a fait du chemin depuis cet événement traumatique pour se sentir enfin un peu plus apaisée.
Europe 1. On dit souvent que le pardon aide à avancer, mais est-ce vraiment le cas ? Comment avez-vous fait pour trouver la force de pardonner ? Racontez-nous votre expérience sur la page Facebook de l'émission ou au standard Europe 1, le 3921. Chaque semaine, de 15h à 16h, vous écoutez Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous avez réussi à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé ? Comment y êtes-vous arrivé ? Est-ce que cela a été libérateur ? On vous attend pour en parler au 3921.
Et puis on voit, Justine, que le pardon, ça n'est pas une chose facile à faire, puisque depuis le début de cette émission, nous avons eu Aurélie qui nous parlait de ce pardon dans des conditions assez particulières. Mais ensuite, on a senti avec Michel, par exemple, que c'était compliqué et que ce pardon, il se fait par étapes. Il se fait, en tout cas, on a besoin de faire un gros travail sur soi-même pour y arriver. Et pour conclure cette émission, justement, nous allons en parler avec Anya, que nous accueillons cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Anya.
Bonjour Olivier.
Bonjour, vous nous appelez, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous ?
Alors, j'appelle de Paris et j'ai 40 ans.
Paris, et vous avez 40 ans. Alors, vous, Anya, à l'âge de 15 ans, vous avez été victime d'un cambriolage qui s'est transformé en une séquestration à domicile et qui a été suivi d'un viol. Très vite, vous vous êtes sentie coupable, comme si c'était de votre faute. Comment fait-on pour se sortir de ce sentiment de culpabilité, d'abord ?
En fait, je pense que comme beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sexuelles, en fait, j'avais une culpabilité, une honte, en fait, je me sentais souillée.
Oui.
Et cette culpabilité, en fait, elle ne m'appartenait pas, mais je l'ai portée pendant de trop nombreuses années. Parce que je me suis sentie, en fait, j'étais vraiment souillée, je me suis dit, en fait, ce qui m'arrive, j'ai dû le mériter, ou c'est ma faute, c'est moi qui l'ai provoqué. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais 15 ans, j'étais très jeune, et j'ai pensé, en fait, longtemps comme ça, que ce qui m'était arrivé, c'était à cause de moi, ou mon karma, on va dire. J'avais faute à pas de chance, et C'est vrai que c'était assez lourd à porter, cette culpabilité.
Et donc, il y avait pendant longtemps de la colère, hein, je crois, en vous. Vous vouliez que votre agresseur souffre, qu'il ne puisse pas continuer sa vie en toute impunité. Vous sentiez que ce sentiment-là ne vous aidait pas, hein, que c'était quelque chose qui vous empoisonnait et qui ne vous faisait pas du tout avancer. À quel moment vous avez senti que cela vous a quitté, ça, déjà ?
Alors déjà, ce sentiment-là, je pense que j'ai porté à peu près une vingtaine d'années, on va dire à des degrés divers, mais j'avais beaucoup de colère, en fait, de rancœur et de haine en moi.
Oui.
Et à un moment de ma vie, j'avais un besoin de vengeance, en fait. Je me dis, mais j'ai besoin de me venger de ce qu'on m'a fait. Est-ce que j'avais besoin de voir cet homme souffrir autant que moi, j'avais souffert.
Cet agresseur, pardonnez-moi de vous interrompre, mais cet agresseur, vous avez eu son identité ensuite ? Ils se sont fait attraper, ces personnes ?
Alors, ils ne se sont pas fait attraper, parce qu'avec mes parents, on a porté plainte pour cambriolage. Mes parents, je n'aurais pas dit pour le viol, en fait. Donc, ils l'ont su que 20 ans après.
D'accord.
On a porté plainte uniquement pour cambriolage. La police a recherché, mais ils n'ont pas trouvé, en fait, les cambrioleurs. Après,
ouais.
Mes parents ont eu des soupçons, en fait. Ils connaissaient l'identité d'un des hommes, parce qu'un des hommes avait travaillé pour nous. Donc, on connaissait l'identité des complices. Hein. Et donc, c'est comme moi, je savais que mes parents connaissaient l'identité de cette personne-là. Ben, c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je me dis, mais j'ai envie de me venger. Alors, ce que j'appelais par vengeance, c'était un moment, ben, je voulais que ma mère me dise le nom de la personne pour que j'aille porter plainte et que je fasse tomber un à un tous les complices.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Et j'ai jamais eu le nom. Après, c'est vrai que c'est comme ça que je peux dire à ma mère. Ça remonte à peut-être 6-8 ans, en fait. Quand j'ai dit à ma mère, je lui ai demandé, bah, donne-moi le nom de cette personne parce que je veux me venger de ce qu'il m'a fait. Et là, en me questionnant, on me demande, mais de quoi tu parles ? Et je dis, lors du cambriolage, il m'a fait quelque chose qui est impardonnable et j'ai besoin de me faire justice.
Mm-hmm.
Donc, c'est à ce moment-là de ma vie. Hein. Donc, j'avais la trentaine et j'avais encore beaucoup de colère et de haine en moi, en fait.
Ouais,
cette
ouais.
colère, cette haine, je la retournais, en fait, surtout contre moi-même. Parce que j'ai mis des années à comprendre que toute cette colère, c'était surtout à moi que je me faisais du mal. Donc, c'est vrai que j'étais une personne assez froide ou quand un homme me parlait, alors, du coup, j'étais vraiment sur mes gardes.
Ouais.
Je me braquais facilement et j'ai l'impression qu'on me voulait du mal. Donc, c'était vraiment, je dirais, j'ai mis peut-être 20 ans à réaliser cette colère enfouie en moi. C'était plus à moi que ça me faisait du mal, en fait.
Oui, et c'était finalement, ça continuait à vous empoisonner la vie, alors que cet agresseur que vous ne connaissiez pas filait sans doute une vie normale. Est-ce que vous avez fini par savoir qui il était ?
J'ai pu avoir le nom de... Enfin, alors, je ne peux pas vous dire que c'est le violeur, mais c'est au moins un des complices. C'est possible que ce soit le violeur. Moi, j'ai porté plainte il y a un peu plus d'un an.
Oui.
Donc, à l'époque, moi, il y avait prescription dans mon cas. J'avais 38 ans et 11 mois. C'était avant que la loi change.
Mm-hmm.
Mais en fait, j'ai vraiment fait dans un but de reconnaissance du préjudice subi. En fait, je ne faisais pas dans une intention d'avoir la justice. Et j'avais besoin qu'on reconnaisse, en fait, mon statut de victime et que j'avais subi dans mon enfance un préjudice et que c'était en effet passible de la cour d'assises, en fait, dans mon cas.
Oui.
Et ça me suffisait. Ça m'a déjà un peu libéré d'aller jusqu'au dépôt de plainte.
Alors, justement, on a beaucoup développé dans votre récit, on a fait exprès de développer votre histoire et votre ressenti par rapport à tout cela pour en arriver bien évidemment au pardon dont nous parlons aujourd'hui, parce que cette colère qui vous empoisonnait, toute cette culpabilité qui vous a fait souffrir, qui vous a étouffé pendant longtemps, finalement, elle a fini par vous quitter au moment où vous avez entamé cette procédure.
Alors, j'avais déjà entamé la procédure avant de porter plainte. En fait, j'étais déjà sur le chemin du pardon.
Oui.
C'est vrai que j'ai mis peut-être une vingtaine d'années. Après, j'ai fait un gros travail sur moi. Donc, c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres de développement personnel, psychologie positive. Ça m'a énormément aidée. Parce qu'à un moment de ma vie, quand en fait, j'espérais que cette personne souffre, en fait, j'attendais que cette personne soit malheureuse pour que moi, je puisse être heureuse à mon tour. Et ça, c'était vraiment à l'heure parce que j'ai réalisé à un moment que mon bonheur ne peut pas dépendre du malheur d'un homme.
Oui.
Sûrement, j'en serai jamais témoin dans ma vie. Je ne verrai jamais derrière les barreaux, je ne verrai pas à mourir d'une maladie incurable. J'ai pensé vraiment à des choses comme ça. J'ai pensé, le jour où cet homme sera malheureux ou qu'il va se repentir et tout, et ben là, je pourrais m'autoriser à être heureuse. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser, mais non, en fait, ce n'est pas du tout la bonne façon de penser. Je ne peux pas attendre le malheur d'un homme.
Vous avez fini par prendre conscience que c'était par vous que ça allait passer.
Tout à fait. J'ai réalisé que mon bonheur dépendait que de moi et que je ne peux pas mettre ma vie en suspens en attendant qu'il soit éventuellement puni. Donc, en fait, c'est ça qui m'a mis vraiment vers le chemin du pardon. Parce que c'était vraiment pour me libérer de toute cette rancœur, cette haine et cette colère en moi, en fait, ce désir de vengeance. ben, j'ai dû apprendre à lâcher prise sur un passé que je ne pourrais jamais changer. Et c'était vraiment, j'ai dû abandonner l'espoir d'un passé meilleur, en fait.
Mmh. Est-ce que le pardon, c'est être résilient, en fait?
Tout à fait. Enfin, moi, c'était partie de mon processus de résilience.
Oui.
Donc, je pense que toute cette étape-là de colère, de haine, c'était nécessaire, en fait. C'est quelque chose que je ne regrette pas parce que je devais passer par ce stade-là, en fait.
Oui.
Sans le fait que je sois seule face à moi-même, avec mes peurs, mes émotions, il fallait que j'accepte de ressentir toutes ces émotions et de ne plus les enfouir. Et j'ai appris comme ça beaucoup sur moi. Et ça fait vraiment partie du processus de reconstruction. Et on ne peut pas sauter cette étape, à mon avis. Il fallait vraiment que je vive une sorte de révolte intérieure en moi pour arriver sur le chemin du pardon.
Alors aujourd'hui, vous avez créé un blog qui s'appelle Les Résilientes. On sent que ce processus du pardon, même s'il a été long, il est là. Cette résilience est là. On sent que vous allez mieux aujourd'hui.
Aujourd'hui, en fait, je suis vraiment heureuse. Et c'est à travers mon blog, en fait, c'est ça que je veux témoigner, qu'une nouvelle vie est possible, malgré une épreuve, on va dire, traumatique, qu'on peut se reconstruire et que c'est vrai qu'il y a un long processus à faire et que ça dépend beaucoup de nous, en fait. C'est aussi une connaissance de soi.
Votre blog, on peut le trouver très facilement sur Internet. Il s'appelle Les Résilientes. Merci infiniment, Anya, pour votre appel et votre témoignage. Merci à Aurélie, à Nathalie. Merci à Michel, auprès de laquelle je m'excuse tout à l'heure parce que j'ai eu un petit problème technique et que j'ai quitté un petit peu précipitamment parce que je ne l'entendais plus du tout. Merci à Gabriel Rubin pour ses éclairages et ses conseils. Alors, on l'aura compris, hein, pardonner pour certaines personnes est nécessaire pour avancer, pour se défaire de sentiments qui peuvent les ronger. Je pense que le pardon est quelque chose de très intime. Il y a autant de pardon que d'histoire personnelle. Mais on l'a vu, la reconstruction ne passe pas forcément par le pardon. Et pardonner, ce n'est pas excuser. N'oubliez pas ça. Pardonner, ce n'est pas excuser. Essayez de comprendre l'autre. Et puis, voilà, c'est par là aussi que le pardon passe, on l'aura compris. On peut continuer à parler de tout cela sur les réseaux sociaux, Justine.
Exactement, en parler, à vous confier sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission ou alors sur Twitter avec le hashtag Europe 1 comme d'habitude. Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des célibataires endurcis. Ils ne veulent plus de relations, ont été trop souvent déçus ou au contraire, cherchent l'amour. Alors comment le trouver, ce grand amour? Si vous n'avez jamais été en couple et que cela vous pèse, si vous êtes célibataire endurci depuis un chagrin d'amour, si vous n'arrivez pas à trouver l'amour malgré toutes vos tentatives, eh bien appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'étais ravi de passer cette heure avec vous, ma chère Justine.
Mais également,
et je vous dis à demain, 15h.